Cette halte du carême nous entraîne sur la haute montagne et avec les trois disciples en compagnie du Seigneur transfiguré. Une merveilleuse expérience qui dit à l'avance la divinité du Christ à quelques témoins. Ce n'est pas les douze, c'est trois parmi eux seulement que Jésus prend avec lui. Dans la première lecture, Dieu demande à Abraham de quitter son pays. Donc quitter son pays, c'est pas seulement la terre matérielle, c'est quitter sa culture, ses références religieuses, tout ce qui fait un pays. Et il lui promet une postérité nombreuse. On ne peut pas s'empêcher de faire le parallèle avec Jésus lui-même. Il a quitté son pays, le Seigneur. En s'incarnant, il a quitté le ciel, la gloire, pour venir parmi nous. Il a renoncé à la vérité pure, non pas pour lui-même, mais pour vivre parmi nous, où le mensonge, le mal sont mêlés au bien. D'un monde culturellement, disons, entre guillemets, très différent du sien. Lui aussi, le Père a promis une postérité nombreuse, dont nous sommes. Et réjouissons-nous de cela, parce que le Seigneur, lui, va nous entraîner à travers le désert. Et là, on peut le comparer à Moïse. Jésus est le nouveau Moïse. Jésus, c'est celui qui nous libère du pouvoir de l'Égypte, celui qui libère les âmes du joug du monde, de ce monde qui refuse Dieu. Il est aussi le berger qui conduit les âmes dans le désert, comme Moïse l'a fait. Et le désert pour nous, c'est la vie présente, c'est la vie terrestre. Et le Seigneur est avec nous. Il a beau être mort et ressuscité, monté aux cieux, il est toujours présent à nos côtés, dans chaque Eucharistie, dans chaque méditation de l'Écriture, dans chaque prière de cœur à cœur, spontanée. Il est celui qui nous conduira à la terre promise que nous désirons. Et le carême, c'est une réflexion sur la véritable valeur du monde, de ce temps présent. Elle en a, mais elle en a parce qu'elle nous conduit vers une terre promise, ruisselante de lait et de miel, éternellement de bonheur. Sinon, si elle nous conduit, cette terre passagère, à soit à l'anéantissement, pire, soit à l'enfer, à la réprobation, alors elle n'est vraiment pas bonne. Elle est amère. On peut faire enfin, alors il y a aussi Élie, le prophète, le grand réformateur, celui qui remet en place la religion d'Israël qui avait été complètement gangrénée par les cultes idolâtriques. Eh bien, Jésus, lui aussi, a vraiment remis en place la véritable religion que Dieu avait révélée à Abraham et à tous ses successeurs. La vérité ne se maintient que dans le combat, la preuve, la passion du Christ. Il faut des efforts pour se maintenir dans la vérité, pour continuer à avoir les yeux ouverts, des yeux capables de voir la vérité. Ce n'est pas une chose acquise, ce n'est pas une chose à laquelle on obéit comme ça spontanément. Notre volonté a besoin d'être éduquée, a besoin de plier le genou face à la vérité. On peut faire donc le parallèle, cette expérience-là, avec les trois disciples, elle va se renouveler, mais d'une manière complètement différente, opposée, dans la prière de Jésus à Gethsémani, qui ouvre sa passion glorieuse. Et le carême nous propose toujours de regarder dans la direction de la Semaine Sainte. Les trois disciples sont les mêmes. Apparemment, ces trois-là avaient la prédilection de Jésus. Mais au lieu de la lumière, du plein midi, de la montagne, et de la lumière d'en haut par la transfiguration, c'est une nuit profonde que celle du Jardin des Oliviers. Il y a la nuit naturelle, et puis il y a la nuit spirituelle, parce que Jésus, là, se revêt du manteau du péché de l'humanité. Son âme n'est pas ténébreuse, mais son âme, si lumineuse, est obligée de briller dans la lumière, dans les ténèbres, et non pas dans la lumière pure du royaume des cieux. Donc la nuit au lieu de la lumière. Et puis nous avons cet héroïsme divin que Jésus nous montre en demeurant fidèle à la volonté du Père. La volonté du Père, c'est la lumière de Jésus. Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe, mais non pas comme je veux, mais comme toi tu veux. L'adoration de la volonté du Père. C'est notre lumière aussi, parce que à travers Jésus, c'est la volonté du Père que nous voyons. Et nous le suivons parce que nous sommes dans la nuit et qu'il est le seul à briller dans cette nuit. Briller de vérité, briller d'amour, briller de toute puissance aussi. Cette même, le Christ est glorieux, vous voyez, il y a eu des... En théologie, on a discuté, mais qu'est-ce qu'a fait réellement Jésus pendant sa passion pour nous racheter? Quel mécanisme, vous voyez, on aime bien les mécanismes, comprendre des rouages. Alors il y a les partisans de la kénose. La kénose, c'est l'abaissement, l'anéantissement, c'est ça que ça veut dire. La kénose de la croix. Alors, selon certains d'entre eux, c'est un courant extrême qui n'a jamais été approuvé par l'Église, mais qui a eu pignon sur rue, c'est le Christ pour sauver l'humanité. Vous voyez, c'est la théologie de Luther. Le Christ, pour sauver l'humanité, s'est fait pécheur. Mais vous voyez, il y a une différence entre se faire pécheur et devenir pécheur. Là, c'est devenir pécheur. Même s'il n'a pas péché, il devient pécheur par volonté personnelle et par volonté divine. Et donc, il est dépouillé de sa divinité, vous voyez, et dépouillé complètement, il est réduit à l'état d'homme. Et réduit à l'état d'homme, il est le pire des damnés, puisqu'il a le péché du monde sur les épaules. Donc il descend dans le bouge le plus profond de l'enfer. Il est damné. Jésus connaît l'expérience de la damnation. Eh bien, ce n'est pas du tout l'opinion de l'Église catholique. L'opinion de l'Église catholique, c'est que Jésus, lumière pure, au-delà de toute lumière, est descendu en tant que lumière et non pas en tant qu'être ténébreux. Parce qu'être damné, c'est devenir un être ténébreux. Et Jésus, certes, porte le péché, mais sans devenir le péché. Sinon, il ne pourrait pas racheter le péché des hommes. C'est précisément pour ça qu'il est épargné de tout péché, même dans les enfers. Il y a cet héroïsme divin, certes sa nature humaine tremble, des sueurs de sang tombent de sa tête jusqu'à terre, nous dit saint Luc, mais il lutte, c'est le sens de l'agonie, il lutte contre les ténèbres et il prend de la force. Vous voyez, avec la visite de l'ange, envoyé par le Père, qui lui montre la coupe, mais ce n'est pas la coupe de la colère de Dieu, c'est la coupe de la force de Dieu. C'est la coupe, c'est l'alliance. Boire la même coupe, c'est faire alliance avec celui avec lequel on boit. Donc, la lumière du Christ, cette volonté du Père, lui permet de vaincre le démon à Gethsémani, le démon du découragement, le démon du désespoir. En cette période où nous le savons bien, l'Assemblée la légifère en ce moment sur la fin de vie, le suicide assisté, prions pour tous ceux qui agonisent précisément. L'agonie, comme Jésus l'a vécu, c'est un mot grec qui se rattache à l'idée de lutte, de combat. Alors évidemment, c'est angoissant. Évidemment, ça donne le vertige, c'est le propre de l'agonie du mourant. Mais c'est un combat. C'est-à-dire, c'est pas une... un châtiment de l'enfer avant l'heure. Un châtiment, on le reçoit, ça nous est infligé, on est passif face à lui. L'agonie, donc, face à la perspective de la mort, parce que la passion, c'est la mort, avant d'être, c'est bien sûr les souffrances du Christ, mais au bout, c'est quoi? C'est l'expérience de la mort. Et c'est ça que Jésus regarde, au-delà de tout le reste. Et prions pour tous ceux qui sont dans l'agonie, précisément, et que les peuples puissent trouver une solution qui ne soit pas la pire de toutes, de préférence.